Voilà, il a été question de beaucoup de joie ce matin dans les prières, dans le chant aussi, le premier chant qu'on a chanté, dans le deuxième, pardon. Venez, peuple triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Joie qui n'est pas que pour nous aujourd'hui, mais qui vient depuis la venue de Jésus-Christ. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Nous allons poursuivre ces textes de la Nativité que Luc est le seul à nous retracer. Et Luc, dans ces textes de la Nativité, donc qui concernent avant la naissance de Jésus-Christ et juste autour de la naissance de Jésus-Christ, marque énormément ces textes en fait par la présence de la joie. Je lis juste par exemple au verset 14 du premier chapitre, quand il y a l'ange Gabriel qui vient auprès de Zacharie pour lui annoncer la naissance de son fils, il lui dit au sujet de son fils, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Donc tout de suite le texte nous entraîne ici dans la joie. La joie pour Zacharie, la joie pour Élisabeth, mais aussi pour beaucoup, pour un peuple nombreux. Et si je tourne et je vais au verset 10 du chapitre 2, il y a les anges qui apparaissent ici aux bergers. Et voilà ce que l'ange leur dit. « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, une grande joie qui est pour tout le peuple. » Donc ce texte, en fait, et on va encore le voir aujourd'hui, est saturé du début à la fin de la joie. La joie de ce que Dieu est en train d'accomplir. La joie de l'initiative de Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir dans le texte de notre étude ce matin, qui est la naissance de Jean-Baptiste et le cantique que Zacharie va prononcer, cette prophétie qu'on appelle souvent le Bénédictus de Zacharie. Et je vous invite alors à lire ce passage, chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent « Que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, texte marqué par la joie depuis le début, l'introduction du récit, avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, jusqu'à la naissance de Jésus, et ici aussi, quand Jean-Baptiste enfin naît, tous se réjouirent. Toute la famille, tous les parents, tous ceux qui étaient autour, les voisins, se réjouissent de cette naissance. Et les parents aussi, au point que le père Zacharie bénit Dieu et se lance dans une prophétie. Et je crois vraiment qu'au travers de toutes ces mentions de la joie ou de l'allégresse, Luc nous écrit cela justement pour nous aussi nous inviter aujourd'hui à la joie. C'est pas seulement la joie pour avant, mais encore aujourd'hui, on a une grande invitation aujourd'hui à être joyeux. Aujourd'hui, à connaître la joie qui vient de Dieu. Et peut-être aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais en ce moment, c'est plutôt dur pour moi. Et je n'ai pas forcément de raison d'être dans la joie. Et j'aimerais te dire que pour les personnes à cette époque-là, c'était la même raison. Eux aussi avaient des difficultés. N'oublions pas qu'à cette époque, ils étaient sous le joug romain. Donc ça veut dire qu'ils étaient des esclaves. Pour se remettre un peu dans une comparaison, imaginez-vous à Noël en France sous l'occupation nazie. Est-ce que vous avez vraiment envie de fêter Noël là, d'être joyeux ou de fêter les rencontres? Pas forcément, n'est-ce pas? Parce que la situation n'est pas agréable. Et pourtant, cette famille connaît la joie. Et Luc, au travers de cette description, nous parle à nous, parce que franchement, ça s'est déjà passé, n'est-ce pas? Il n'est pas en train d'informer. Il n'est pas en train d'informer ceux qui sont en train de vivre ces événements de ce qui est en train de se passer. C'est pour nous, et pas que pour nous, n'est-ce pas? En fait, il écrit cela quand? Après le début de l'Église. Parce qu'il écrit Luc et Actes ensemble, c'est une seule œuvre. Donc, c'est après que Paul est en prison. C'est-à-dire quand les chrétiens ont déjà commencé à être persécutés. Paul leur écrit cela à vous qui êtes persécutés, à vous qui êtes rejetés, moqués. Il y a peut-être Paul qui va bientôt se faire tuer. Mais pour vous, j'écris ces récits afin que vous, malgré vos circonstances, malgré votre vieillesse, malgré votre chômage, malgré l'occupation, malgré le rejet, malgré la prison, malgré la mort qui vous pend au nez, je vous écris ceci aujourd'hui pour que aujourd'hui vous puissiez connaître la joie, la vraie joie. Il écrit notamment ceci à Théophile et à tous ses lecteurs dont nous sommes encore aujourd'hui. Et au travers de ce récit, notamment au travers de la prophétie de Zacharie, Luc nous invite à une joie qu'il vient décrire. Une joie qui provient, nous dit-il, de la délivrance. Et c'est le gros point sur lequel ici insiste Zacharie. Sur la délivrance. Délivrance qui provient de la miséricorde de Dieu, comme on avait vu la semaine dernière dans les Magnificats de Marie, c'est encore entouré ici, verset 72. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, et verset 78, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. Cette délivrance vient de la miséricorde, de ce que Dieu ait pitié de nous. Il vient nous délivrer dans notre détresse. Et cette délivrance est justement la raison de notre joie qui peut dépasser tout ce que nous connaissons comme difficulté aujourd'hui. Par sa venue, Jésus-Christ nous offre la joie de la délivrance. Je propose de faire quelques remarques dans le texte pour mettre cela en avant. Mais avant de parler proprement de la délivrance. Première chose qu'on voit, c'est dans le récit de la naissance et de la circoncision de Zacharie, c'est que la délivrance passe par un renoncement à soi. La délivrance passe par un renoncement à soi. L'enfant vient de naître, celui qui va être appelé Jean et que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur. Et tout le monde vient pour l'appeler Zacharie, n'est-ce pas ? C'est la tradition. Habituellement, en Israël, à ce moment-là, on appelait le fils du nom du grand-père. Voilà, c'est le nom du père. Donc, est-ce que le père s'appelait déjà comme ça ? Ou alors, il était tellement vieux qu'il a fait un peu office de grand-père aussi. Il a été père assez tard. Mon beau-père s'appelle Diego. Et si on remonte dans la généalogie des Villanova, on a des Diego en veux-tu, en voilà. Pourquoi ? C'est une tradition, notamment latine, et j'ai la même chose du côté d'un de mes beaux-frères, où en fait, on nomme l'enfant du nom du père, notamment le premier fils, on le nomme du nom du père. Pourquoi ? Parce qu'on fait perdurer comme ça la vie de la famille. On fait perdurer la tradition, on fait perdurer le nom. Et c'est toute la joie, toute la fierté du père qui rejaillit dans le premier fils. Pas de bol pour le deuxième fils. Mais c'est ainsi, c'est tout ce souvenir qu'on veut marquer et toute notre lignée qu'on veut affirmer. Mais lorsque l'ange était apparu à Zacharie, il lui avait dit non, il va s'appeler Jean. En fait, mon ami, et vous imaginez, vous êtes à la maternité, vous dites « Ouais, super, on va lui donner le nom qu'on a choisi. » Il y a quelqu'un qui dit « Non, 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 c'est pas toi qui vas donner le nom, c'est moi. » Frustration, n'est-ce pas ? Et l'ange a dit « C'est pas toi qui vas choisir le nom, c'est moi. Voici son nom, c'est Jean. » Et Jean, ça veut dire quoi ? Jean, ça veut dire « Dieu fait grâce. » Dieu fait grâce. Donc tous les Johanan, Johanna, Johan, etc., c'est ça que ça veut dire. Évan aussi, comme ça vous le savez. Mais ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu prend l'initiative pour répandre sa grâce, cette grâce qui avait été annoncée depuis les temps anciens par les prophètes. Mais le plan de Dieu ici, le projet de Dieu ici, vient heurter, vient confronter la tradition familiale. Vient confronter, vient heurter l'habitude de la famille et risque d'entraîner la perte du souvenir de la famille. Et autrement dit, au travers de cela, Zacharie, avec son seul fils, son seul héritier, va devoir dire « Je suis prêt à renoncer à moi, à renoncer à ma famille. » Ce n'est pas moi qui dure, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon nom qui va durer. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et quand tout le monde veut le nommer, il y a Élisabeth qui prend position et dit « Non, 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 c'est Jean son nom. » Et alors forcément, on se tourne vers le père. Et le père écrit sur cette tablette « Jean et son nom. » Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est que c'est à ce moment-là précis quand Zacharie prend position pour le projet de Dieu en disant « Tant pis pour ma vie, tant pis pour ma tradition familiale, tant pis pour mon nom, c'est pas ça qui compte, mais c'est le projet de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu lui redonne la capacité de parler. » Et je vous rappelle qu'il avait perdu cette capacité parce que quand l'ange lui avait annoncé la naissance de son fils, il n'avait pas cru. Lui, l'homme religieux, n'avait pas cru, n'avait pas accepté la parole de Dieu. Et en tant que prêtre, quand il était sorti du temple, Dieu l'a préservé, l'a empêché d'être hypocrite. Parce qu'en sortant du temple, il devait bénir le peuple. Et il n'a pas pu. Celui qui n'a pas cru n'a pas pu parler de la part de Dieu. Mais à ce moment-là, maintenant qu'il accepte la volonté de Dieu, maintenant qu'il accepte de renoncer à soi, Dieu lui redonne la parole. Zacharie a été transformé, il a renoncé à soi, il a eu la foi, il a cru en Dieu, dans le projet de Dieu, et Dieu lui a redonné la parole. Et maintenant qu'il a accepté cela, maintenant qu'il a renoncé à lui, il peut glorifier Dieu. Et c'est ce qu'il va faire maintenant, à partir du verset 68. Il peut glorifier Dieu, et ce qu'il va glorifier, ce qu'il va chanter de la part de Dieu, c'est la délivrance. Maintenant qu'il a renoncé à lui, il peut se réjouir de la délivrance que Dieu est sur le point d'accomplir. Et Zacharie va insister dessus. Regardez, verset 69. « Dieu nous a procuré une pleine délivrance », nous dit-il. Verset 71. « La délivrance de nos ennemis », il commence à la décrire. Verset 77. « Pour donner à son peuple la connaissance du salut ou de la délivrance », c'est exactement le même terme ici. La connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et verset 74 aussi, il emploie un autre terme ici. Il nous accorde « après avoir été délivré de la main de nos ennemis ». Donc un terme qui revient beaucoup ici dans ce cantique, dans ce Bénédictus, où Zacharie insiste lourdement. « Voilà le sujet de ma joie ». Voilà ce qui nous réjouit, voilà ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et première chose qu'il nous dit sur cette délivrance, c'est qu'elle provient de la maison de David. Autrement dit, le libérateur vient de cette maison de David. Et pour nous qui connaissons le récit de Luc depuis le départ, nous pouvons voir qu'au chapitre 1, verset 31, voilà ce que l'ange avait dit à Marie, que Luc nous a redonné. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà le libérateur, nous on le connaît. Et ce qui est assez étonnant ici, encore une fois, comme pour Élisabeth la dernière fois, c'est que Zacharie, conduit par le Saint-Esprit dans la joie que Dieu lui donne, se réjouit non pas de la naissance de son fils, mais se réjouit de la naissance de quelqu'un d'autre. Il est en train de chanter la gloire de Dieu à cause d'un autre enfant qui n'est pas le sien. Le libérateur vient de Marie, vient de la maison de David. Étonnant, n'est-ce pas? Eux qui avaient tellement désiré pendant des années et des années avoir un fils. Eux qui avaient prié pour avoir un enfant parce que Élisabeth était stérile. Eux qui espéraient au point d'en désespérer. Et maintenant que Dieu a agi dans leur grand âge, maintenant que Dieu a répondu à leur prière et leur a donné un fils, le sujet de leur joie n'est pas leur fils. Le sujet de leur joie n'est pas l'accomplissement de leur prière envers Dieu, n'est pas le cadeau que Dieu leur a fait. Le sujet de leur joie, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre enfant. Pourquoi? Alors c'est clair qu'ils ont de la joie pour la naissance de leur enfant, n'est-ce pas? Mais il y a une joie beaucoup plus grande pour eux. Dieu a fait quelque chose de beaucoup plus grand que de nous libérer de notre stérilité. Dieu nous a donné une joie plus grande, plus intense, plus précieuse que la guérison. Il nous a libérés. Il nous a donné un libérateur. Et Dieu seul nous accorde cela. Et cela est beaucoup plus important que toute autre chose. Deuxième élément de la délivrance, c'est quelle est la délivrance des ennemis. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, nous dit Zacharie au verset 71. Et ici, Zacharie nous parle d'une délivrance politique et sociale. Et effectivement, à cette époque, faut pas oublier, encore une fois, ils sont sous le joug romain. Et ça fait tellement longtemps qu'ils sont sous un joug étranger. Depuis l'an à peu près 721, où Samarie a été détruite. Et déjà avant, ils étaient sous domination assyrienne, ensuite babylonienne. Ils ont été aussi sous domination perse, grecque et romaine. Et entre-temps, il y a eu un petit temps de liberté. Mais ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont sous la domination de leurs ennemis, de ceux qui les haïssent. Et c'est encore le temps à ce moment-là. Et le peuple attend cette délivrance. Et regardez les termes que Zacharie emploie. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté. Voilà la délivrance de nos ennemis. Est-ce que ces termes vous font penser à des passages dans l'Ancien Testament notamment? T'as dit? J'ai pas entendu ce que t'as dit en fait.
Bose.
Oui, Bose, oui, tout à fait. Le livre de Ruth, Dieu a visité son peuple et a donné du pain. Et effectivement, c'est un des exemples. Et on a pour, donc Bose, celui qui va marier Ruth, hein, ou Boaz. Ça fait partie de ces termes de visiter. C'est pas que Dieu se baladait comme ça. Tiens, c'est joli ici, non? Ça nous parle que Dieu intervient. Dieu agit en faveur de son peuple. Dieu délivre son peuple. Il le délivre de la famine ici, dans le livre de Ruth, mais va le délivrer aussi d'autres ennemis. Et là, une des premières fois où ça apparaît, si ce n'est la première fois, je n'ai pas vérifié, en fait, c'est dans le livre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse, « J'ai visité mon peuple. » Et je vais le racheter. Deux grands termes qui nous parlent toujours de la délivrance que Dieu fait envers son peuple. Et ces mots sont repris par les prophètes pour dire « Dieu va encore racheter son peuple ». Voilà par exemple ce que nous dit le prophète Ésaïe. « Alors, en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Une seconde fois. Pourquoi une seconde fois? En général, quand on dit qu'on fait quelque chose pour la seconde fois, c'est qu'on l'a fait aussi la première fois, n'est-ce pas? Hein, c'est mathématique. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'une seconde fois, il va racheter. C'est-à-dire qu'une première fois, il a racheté. Et c'était quand la première fois qu'il a racheté? C'est l'Exode. Il a racheté son peuple de l'Égypte. Il a libéré, il est intervenu en faveur de son peuple. Et ici, le prophète Ésaïe nous dit que Dieu va encore intervenir alors que l'exil assyrien a déjà lieu. Alors que l'exil babylonien se profile, le prophète annonce « Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu va intervenir pour vous. Il va vous libérer de vos ennemis et il va vous racheter. » Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, je vous encourage, lisez le livre d'Ésaïe, c'est un magnifique livre, et soulignez le nombre de références à l'Exode, c'est impressionnant. On voit qu'il y a un nouveau Moïse qui arrive, un nouveau David qui arrive, un nouveau Josué qui arrive. Et en fait, il nous projette vers une nouvelle libération, un nouvel exode. Et vous savez quoi? Vous savez de quoi parlent Moïse, Élie, Élu et Jésus quand ils sont sur le mont de la Transfiguration, dans l'évangile de Luc? Vous savez de quoi ils parlent? Ils parlent littéralement de l'exode de Jésus. Littéralement, c'est le mot qui est employé. Il parlait de son exode. Et son exode qui va se dérouler à Jérusalem. Là où il va racheter son peuple. Mais le prophète Ésaïe et ici Zacharie qui reprend toutes ses promesses. Il dit, voilà, Dieu va intervenir. Et dans la compréhension des prophètes, ce second rachat va permettre à son peuple d'être à nouveau dans la présence de Dieu. C'est effectivement une libération de tous les ennemis qui ont eu lieu tout au cours de l'histoire d'Israël et qui va aboutir par la délivrance du grand ennemi, de l'ennemi qui est derrière tous ces ennemis-là, de Satan. Dieu va intervenir, Dieu va visiter, Dieu va racheter son peuple. Il va détruire l'oppresseur et restaurer son peuple. Et voilà cette grande libération. Et regardez comment Zacharie en parle. Il nous accorde, verset 74, « après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de faire quoi ? De pouvoir, sans crainte, lui rendre un culte. » Ce qui n'était plus possible parce que les ennemis nous avaient emportés loin de notre pays. Ce qui n'était plus possible parce que les ennemis avaient détruit notre temple. Mais Zacharie dit, Dieu va rendre à nouveau tout cela possible. Bizarre alors que le temple est là, n'est-ce pas ? Mais pourtant, dans la sainteté, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, et écoutez bien, en sa présence. En sa présence. Vous savez, c'était quoi la fonction de Zacharie ? Oui, c'est ça. Exactement, c'était un sacrificateur. Or, est-ce que les sacrificateurs avaient le droit de rentrer dans le temple ? Oui, dans la première partie. Est-ce qu'ils avaient le droit de rentrer dans le Saint des Saints ? Seulement le grand sacrificateur avait le droit. Les autres sacrificateurs, tels que Zacharie, a priori, n'avaient pas le droit. Et donc nous, les membres du peuple, encore moins le droit. On n'avait pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Et là, Zacharie nous dit, Dieu intervient, Dieu visite, Dieu rachète pour nous prendre dans sa présence. Là où on n'a pas le droit d'aller. Là où c'est interdit parce que Dieu est saint et que nous ne sommes pas. Il est en train de nous dire, Dieu est en train d'accomplir toutes les promesses des prophètes. Où les prophètes nous ont dit, non seulement il va nous délivrer, mais ce jour de délivrance, Dieu va régner sur Jérusalem, Dieu va régner dans Sion, et même il nous dit qu'il sera présent. Et regardez la finale d'Ézéchiel, texte magnifique, qui nous dit ceci, « Et dès ce jour-là, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. » L'Éternel est ici. Alors que la ville a été détruite, alors que le peuple est loin de Dieu. Ézéchiel et les prophètes ne laissent pas le peuple sans espoir et à la montagne. Dieu va vous visiter. Dieu va vous racheter. Il va renouveler un énorme temple qui est impressionnant si on lit la description d'Ézéchiel. Et non seulement cela, mais on habitera dans sa présence. L'Éternel est ici. Et Zacharie nous dit ici, tout est sur le point maintenant de s'accomplir. La grande délivrance par le libérateur de la maison de David. Cette grande délivrance arrive. Et c'est pourquoi Théophile, et c'est pourquoi vous, tous les lecteurs, qui êtes peut-être en prison, qui êtes peut-être malade, qui êtes peut-être stérile, comme Élisabeth l'a été, la grande joie de Dieu est pour toi aussi. Parce que cette joie dépasse toute chose. C'est la joie de la libération, la joie de la présence même de Dieu. Et troisième élément de cette délivrance, verset 77, pour donner à son peuple la connaissance de la délivrance ou du salut par le pardon de ses péchés, c'est que non seulement cette délivrance est extérieure à nous, politique, sociale, mais elle est aussi intérieure. Il vient nous délivrer de toute la cochonnerie, toute la saleté qu'il y a en nous. Il vient donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est quoi le péché ? C'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup de nos jours, n'est-ce pas ? Sauf dans l'Église, ou si on lit la Bible. Mais c'est ce terme qui signifie en fait qu'on s'est égaré, on s'est perdu. Si vous allez vous balader à la montagne et que vous prenez le mauvais chemin, vous avez péché. D'accord ? Si vous allez quelque part et vous partez avec la mauvaise route en voiture, vous avez péché. En fait, c'est ce terme qui signifie qu'on s'est perdu, on a loupé le but. On a loupé la direction. Et la direction que Dieu lui-même nous a donnée. Donc ce terme de péché parle de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut dire que Dieu n'aime pas, que Dieu qui nous a créés n'approuve pas. Et c'est autant le mal que nous faisons que le bien que nous ne faisons pas. Tout cela, la Bible regroupe sous ce terme de péché. Et le mal, ce péché, ces fautes ont plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est la honte. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de dire « Ah, si je pouvais revenir en arrière. » Je pense qu'on s'est déjà tous dit ça, n'est-ce pas ? « Ah là là, si je pouvais revenir en arrière, ça je ne le dirais pas. Ça je ne le ferais pas. » Et pourquoi ? Parce qu'on a honte. On a du remords de cela. Mais on ne peut pas et on doit vivre avec ce souvenir et parfois le poids, la honte, mais aussi la culpabilité. Parce que parfois on a juste honte parce que les autres nous regardent un peu bizarrement maintenant, mais parfois on a vraiment fait du mal et on est coupable. Je lis actuellement un roman, Harlan Coben, si ça vous dit quelque chose, et où un de ses personnages est tellement lourd par rapport à son passé qu'il dit ceci, « Pour moi, il n'y a pas de rédemption. Pour moi, il n'y a plus d'avenir. » Et on peut dire, ouais, c'est juste un roman, n'est-ce pas ? On s'en fiche, ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire la chose suivante. C'est que l'auteur réfléchit avec sa vie et avec ce qu'il voit autour de lui. Et il nous parle de ce que les gens vivent. Et parfois, on a des personnes qui croient cela par rapport à un tellement grand mal qui a pu être commis, qui disent, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Je fais tout, je m'investis dans le bien des autres, quelque part pour leur donner la chance que moi je n'ai plus eu, parce que pour moi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité. C'est tellement foutu. Le mal entraîne la honte, entraîne la culpabilité. Mais par-dessus tout, la plus grande des conséquences, c'est que ce mal, ce péché, entraîne la séparation d'avec ce Dieu qui nous a créés, le Dieu que nous avons offensé. Dans le psaume 51, David ose dire la chose suivante, « J'ai péché contre toi et contre toi seul. » Et il écrit ce psaume après avoir commis un adultère, c'est-à-dire qu'il a péché contre toutes ses femmes et tous ses enfants. Il écrit ce psaume après avoir tué le mari de cette femme à qui il a commis l'adultère, c'est-à-dire qu'il a péché contre cette femme aussi et contre cet homme et contre toute la famille de cet homme. Et non seulement il l'a tué, mais en fait il l'a fait mettre à mort. Donc c'est lui le commanditaire. Et il l'a fait mettre à mort par son général. Et au travers de son armée qui a abandonné un de ses soldats d'élite. Parce que cet homme-là, entre parenthèses, c'était un de ses soldats d'élite quand même, qui était proche de lui. Donc il a péché contre son général et contre toute son armée. Et David, en tant que roi, était celui qui devait conduire le peuple dans la justice. Autrement dit, en étant injuste. En utilisant son pouvoir pour lui et non pas pour le bien du peuple, il a péché contre tout le peuple. N'est-ce pas ? Et il dit quoi ? J'ai péché contre toi et contre toi seul. Pourquoi ? Il ne voit pas le mal qu'il a fait ? Et si on lit bien le texte, si il voit le mal. Mais David nous rappelle ici la chose suivante. Avant tout, toute faute, toute parole mauvaise, méchante, brutale, toute action mauvaise est avant tout contre Dieu. Si je parle mal à mes parents, c'est contre Dieu que je pèche. Si je lève ma main sur ma femme, c'est contre Dieu que je pèche. Si je fais n'importe quoi envers mes enfants, si je les maltraite, si je les opprime, c'est contre Dieu que je prêche. Même chose avec mes collègues. Même chose avec la personne que je croise dans la rue. Même chose avec toute personne. C'est avant Dieu que je prêche. Contre ce Dieu qui a créé mes parents, mes enfants, ma femme, la personne dans la rue, le collègue, etc. Toutes ces personnes qui portent l'image de Dieu et que Dieu aime, c'est contre lui et lui seul. Et Zacharie, ici, conduit par le Saint-Esprit, nous dit que la délivrance de Dieu est sur le point d'accomplir, de s'accomplir, et que cette délivrance concerne tous ces points-là. La connaissance de la délivrance par le pardon des péchés. Pardon de cette honte que j'ai en moi. Et il vient me délivrer de ma honte. Pardon de ma culpabilité, parce que c'est lui qui va la prendre. Pardon, délivrance de la séparation d'avec Dieu. Il vient tout accomplir, me délivrer de tout ce qui m'entraîne vers le bas, de tout ce qui est lourd et ce que je n'arrive pas à porter, de tout ce qui m'empêche d'avoir un espoir vers l'avenir. Il vient pour me délivrer de tout ce mal. Et voici comment il va le faire. Verset 78. « Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Ici, Zacharie est encore une fois en train de citer le prophète Ésaïe. Voilà ce qu'a dit Ésaïe, n'est-ce pas? Pour reprendre ces paroles-là, il dit que le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Et c'est avec tout ce contexte qu'il nous faut lire cette citation. Voilà ce que dit encore Ésaïe. « Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » C'est-à-dire que quand cette lumière va visiter le peuple, nous annonce Ésaïe, il y aura une grande joie. Et pourquoi? Il continue. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Vous voyez comme ici, cette gerbe est liée. Le libérateur vient de la maison de David. Le libérateur vient pour nous délivrer de nos ennemis et affermir le trône de David pour toujours. Et ce libérateur, c'est ça un enfant spécial. C'est Dieu fait homme. Cette lumière qui vient nous visiter d'en haut pour nous pardonner, pour enlever le poids de tout le mal. La délivrance vient de Dieu lui-même qui prend la condition humaine, qui se fait bébé, fils de Marie, pour prendre notre honte, nos culpabilités, notre péché, notre rébellion, afin de les porter sur lui, à la croix. Et c'est vers là que Luc nous dirige. Cet enfant de Marie qui va naître bientôt va grandir et va porter à la croix pour accorder le pardon, délivrer de l'emprise de Satan et délivrer de nos péchés pour nous conduire dans la présence même de Dieu. Voilà la source de la joie. Cette source de la joie qui n'est pas en toi. Cette source de la joie qui n'est pas dans tes conditions, dans ta vie, mais cette source de la joie qui est dans ce que Dieu est en train de faire, a déjà fait, continue à faire aujourd'hui. Et Luc, qui écrit à Théophile, nous dit « Théophile, accueille, prends, reçois cette joie. Elle est pour toi si tu es prêt, comme Zacharie, à renoncer à tes projets, si tu es prêt à renoncer à tes valeurs pour prendre et embrasser le plan de Dieu. » Et là, j'aimerais vous poser cette question que je vous ai posée la semaine dernière. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Mais je vais la tourner un petit peu différemment. Qu'est-ce qui nous retient? Ou qu'est-ce qui te retient aujourd'hui d'être dans la joie? Ou qu'est-ce qui étouffe aujourd'hui cette joie que Dieu veut te donner? Il y a plusieurs choses qui peuvent étouffer notre joie, n'est-ce pas ? Pour certains, ça peut être la maladie. Mais effectivement, c'est cette condition réelle qui est présente. Ou problème de santé, encore une fois, de chômage. Peut-être l'inquiétude pour les enfants entraîne une absence de joie. Ou inquiétude pour les parents, ça va dans les deux sens. Peut-être c'est ta honte ou ta culpabilité qui entraîne cette absence ou qui étouffe cette joie. Peut-être c'est que tu vas tellement bien que tu ne te rends même pas compte que tu as besoin de cette joie. Mais comme pour Luc, nous vivons aussi dans un monde qui continue à souffrir. Et si nous suivons le récit de Luc, ces souffrances, ces maladies, ces difficultés n'ont pas cessé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si on continue dans le livre des Actes, voilà ce que nous lisons. Chaque jour, premier chrétien, Jérusalem, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse. Avec allégresse et simplicité de cœur. Eux, sous le joug de Rome. Eux, qui encore étaient malades. Eux, qui étaient vieux et savaient que la mort arrivait. Et plus tard, les disciples nous disent qu'il y a une grande joie dans cette ville. Quelle ville, Samarie? Quand les ennemis ont été rassemblés. Et d'où provenait cette joie? Pas parce que c'était la fête, pas parce qu'il y a eu un grand repas, mais parce que Philippe a prêché l'évangile. Conséquence, il y eut une grande joie dans cette ville. Et un peu plus tard encore, Luc nous dit que les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Voilà ce que l'Esprit Saint leur a donné de vivre, cette joie. Dans quelles conditions? Alors que Paul et Barnabas viennent se faire mettre dehors à coups de pied dans les fesses de la ville d'Antioche. On ne voulait plus d'eux. Et la persécution se levait sur eux. Mais malgré cette persécution, le texte nous dit, ils étaient dans la joie. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que pour eux, la délivrance des ennemis et des péchés par le grand libérateur Jésus-Christ a eu lieu, mais nous attendons encore, comme eux, la pleine manifestation de cette libération lors du retour en gloire de Jésus-Christ. La libération, la délivrance a déjà eu lieu, mais elle n'est pas encore pleinement manifestée. Et dans l'attente, cette joie est annoncée. Et dans l'attente, Zacharie, comme les premiers chrétiens, ont fait un choix. Et le choix, c'est de se fixer sur ce que Dieu est en train de faire. Et c'est le défi qui nous est proposé à nous aussi. On peut vite fixer notre regard sur ce qui ne va pas dans notre vie, n'est-ce pas? Moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'ai tendance à me focaliser dessus et à ne voir que ça. Il peut y avoir 95% de choses qui vont bien, il y a 5% de choses qui ne vont pas, ça me prend toute mon énergie, toute mon attention et je n'arrive plus à voir le reste. Et Luc ici nous appelle à dire, Philippe, fais gaffe où tu mets ton regard. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé qui est vraiment importante? Est-ce que c'est ta renommée qui est vraiment importante? Est-ce que ce que les gens pensent de toi qui est vraiment importante? Est-ce que c'est même que certains de tes rêves soient réalisés qui est vraiment important? Ou c'est que Dieu t'aime, qu'il te l'a montré, qu'il est venu à toi, qu'il t'a pardonné de tes péchés, de tes fautes, de toute ta culpabilité, de ta honte, et qu'il te donne une espérance pour l'éternité? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Et Zacharie, ici, les premiers chrétiens nous invitent aussi à nous laisser saisir par cette joie que Dieu veut nous offrir. Pas parce qu'elle va étouffer le reste, mais parce qu'elle va dépasser le reste. Elle va plus nous combler qu'un rajeunissement, qu'un lifting ou autre. Elle va plus nous combler que la libération du joug romain, avec toutes ses peines. Elle va plus me combler que toute autre renommée. » Et comme pour les disciples, dont on a lu ici, ils étaient remplis de joie et de Saint-Esprit, remarquez la chose suivante. Ici pour Zacharie, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint. Exactement comme sa mère Élisabeth. Et c'est parce que le Saint-Esprit les a saisis qu'ils ne sont pas réjouis de ce qu'ils attendaient le plus, mais ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient besoin le plus, de la délivrance de Dieu en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit leur a donné cette joie de voir ce que Dieu a accompli. Voilà le secret de cette joie en pratique. Fixer les regards sur le libérateur. Pour laisser Dieu nous remplir de sa joie par son Esprit Saint. Parce que notre plus grand besoin, qui vient dépasser toutes nos difficultés, a été donné. Le libérateur vient. Il est venu pour nous aujourd'hui. Pour nous éclairer, pour nous pardonner, pour nous relever, pour nous prendre dans sa présence, dès aujourd'hui par le Saint-Esprit qui habite en nous, si tu lui appartiens déjà, et cela pour l'éternité. Encore dans ce jour merveilleux où l'Apocalypse nous le décrit, n'est-ce pas ? Il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrances, et nous le verrons comment ? Face à face. Je vous invite à prier.